L'avortement était-il égal aux Philippines? Juan Diego le savait. Il était curieux d'entendre ce que le docteur Quintana en pensait. Et si elle et son mari, en bon catholique, étaient d'accord sur ce chapitre. Mais pas question d'en parler avant que les enfants et les ados soient couchés. Pour tout dire, il espérait avoir l'occasion d'en discuter avec le docteur Quintana après que son mari serait couché. L'idée l'agita tellement qu'il faillit en oublier Myriam. L'oublier, allons donc, pas une minute. Il résista à l'envie de prendre une douche en plein air, non seulement parce qu'il faisait nuit et qu'il y aurait eu donc des myriades d'insectes dans cette douche, mais parce qu'il risquait de ne pas entendre sonner son téléphone. Il n'était pas en mesure d'appeler Myriam, ignorant son nom de famille et renonçant à passer par la réception pour avoir sa chambre. Mais si c'était elle, la pensionnaire mystérieuse, n'allait-elle pas se manifester? Il résolut de prendre un bain. Il n'y aurait pas d'insectes à l'intérieur, et puis il pourrait laisser la porte ouverte au cas où elle téléphonerait. Naturellement, il précipita ses ablutions et le téléphone demeura muet. Il essayait de garder son calme et mijotait la suite de sa stratégie en matière de médicaments. Pour ne pas s'embrouiller, il remit le coupe-comprimé dans sa trousse de toilette. Le Viagra et le Lopressor étaient côte à côte, sur le bord de la vasque. Pas de demi-dose. Après dîner, il prendrait la posologie normale, un Lopressor entier, sauf s'il était avec Myriam. Sauter une prise ne lui avait fait aucun mal précédemment, une poussée d'adrénaline pouvait avoir des effets bénéfiques, voire nécessaires en sa compagnie. Le Viagra le mettrait devant un choix plus délicat. Pour son rendez-vous avec Dorothy, il avait troqué sa demi-dose habituelle contre une entière. Il en irait de même avec Myriam, car la demi-pilule ne suffirait pas. Restait à savoir quand l'absorber. Le Viagra met environ 1 heure à agir. Mais combien de temps ces effets durent-ils pour une dose normale, soit 100 mg? Dire que c'était le réveillon en plus. Les adolescents, sinon les enfants eux-mêmes, veilleraient au-delà de minuit. C'était couru d'avance. Quant à la plupart des adultes, ils voudraient aussi saluer le passage au nouvel an. Et si Myriam l'invitait dans sa chambre à elle, ne ferait-il pas mieux d'emporter le Viagra à table puisqu'il était trop tôt pour l'avaler tout de suite? Il s'habilla lentement en essayant d'imaginer comment s'habiller pour lui plaire. Ses romans présentaient des relations plus durables, plus complexes et plus variées que sa vie. Ses lecteurs, du moins ceux qui ne l'avaient jamais rencontré, auraient pu croire qu'il menait une vie sexuelle très émancipée. Ses livres mettaient en scène des expériences homosexuelles et bisexuelles, ainsi que des tas de liaisons hétérosexuelles à l'ancienne. C'était pour lui une démarche politique que de décrire ces choses de façon explicite. Mais pour sa part, il n'avait jamais vécu avec personne, et l'hétérosexualité à l'ancienne était bien son créneau. Il se doutait qu'il était un amant plutôt pépère, et il aurait été le premier à reconnaître que sa vie sexuelle se passait presque entièrement dans sa tête. Comme à présent, songea-t-il avec regret. Il ne faisait qu'imaginer Myriam, même sans savoir si elle était bien la mystérieuse pensionnaire descendue à l'Encantador. Cette conviction que sa vie sexuelle existait surtout dans ses fantasmes le démoralisa. Et pourtant, il n'avait encore pris qu'un demi-lopressor. Cette fois, s'il se sentait diminué, il ne pourrait pas mettre la chose sur le compte des bêta-bloquants. Il décida de glisser un Viagra dans sa poche de pantalon de façon à voir venir, avec ou sans Myriam. Il glissait souvent sa main dans sa poche autrefois. Il n'avait nul besoin de voir la jolie tuile de Mahjong, mais il aimait la sentir sous son doigt. Elle était si lisse. C'était le petit rectangle qui avait laissé une encoche parfaite sur le front pâle d'Edouard Bonshaw, son seigneur Eduardo, qui l'avait gardé comme un porte-bonheur. Quand le cher homme fut à l'article de la mort, qu'il ne s'habillait plus et n'avait plus de poche, il la lui avait donnée. C'est ainsi que la pièce de bambou et d'ivoire, jadis incrustée entre les sourcils blonds d'Edouard Bonshaw, était devenue son talisman à lui. Le comprimé carré de couleur gris-bleu n'était pas aussi lisse, et il était 2 fois plus petit. Mais c'était sa pilule de sauvetage. Et si Myriam était bien cette étrangère du premier étage, ayant élu domicile à côté de la bibliothèque, le Viagra constituait son second talisman. Comme de juste, la personne qui frappa à sa porte lui fit une fausse joie. Ce n'était que Clark qui l'emmenait dîner. Lorsque Juan Diego éteignit la lumière dans sa chambre et dans sa salle de bain, son ancien élève lui conseilla d'enclencher le ventilateur et de le laisser tourner. « Vous avez vu le gecko ? Il désignait le plafond. Un gecko gros comme le petit doigt y était perché à l'aplomb de la tête de lit. Juan Diego n'était pas nostalgique du Mexique. Il n'y était jamais retourné. Mais les geckos lui manquaient. Le petit spécimen au-dessus du lit fila sur le plafond grâce au patin de ses pattes, à l'instant même où Juan Diego actionnait le ventilateur. Quand les pales auront tourné un moment, les geckos se calmeront, expliqua Clark. Il ne faudrait pas qu'il fasse la sarabande quand vous voudrez fermer l'œil. Juan Diego fut déçu de ne pas avoir repéré les geckos avant Clark. Comme il fermait la porte de sa chambre, il en vit un second se carapater, vif comme l'éclair sur le mur de la salle de bain et disparaître derrière le miroir. Les geckos me manquent, avoua-t-il à Clark. Sur la coursive, leur parvenait de la plage la musique d'un nightclub bruyant fréquenté par les gens du cru. Pourquoi ne retournez-vous pas au Mexique en touriste, je veux dire? Décidément, Clark n'avait pas changé. Il aurait voulu que Juan Diego règle ses comptes avec son enfance et son adolescence. Il aurait aimé que toute souffrance se solde de façon exaltante, comme dans ses romans. Chacun avait droit au salut, à tout péché, miséricorde. Chez lui, la bonté finissait par devenir un pensum. Sur quoi ne s'étaient-ils pas affrontés tous deux? Leurs échanges sur Jean-Paul II, mort en 2005, avaient été sans fin. L'homme cardinal polonais encore jeune lors de son élection était devenu un pape très populaire, mais ses efforts pour revenir à la normale en Pologne, c'est-à-dire pour interdire de nouveau l'avortement, exaspéraient Juan Diego. Clark French avait exprimé sa sympathie pour l'idée énoncée par le pape d'une culture de la vie. La formule recouvrait son hostilité à l'avortement et à la contraception. Il s'agissait de défendre les fœtus sans défense contre la culture de la mort. Comment se fait-il que vous, après ce que vous avez connu, choisissiez la culture de la mort contre celle de la vie? Lui avait demandé son élève à l'époque. Et voilà qu'il lui suggérait pour la énième fois de retourner au Mexique, en touriste. Tu veux savoir pourquoi je n'y retourne pas, Clark? Lui répondit-il pour la énième fois aussi, en claudiquant le long de la coursive. En d'autres temps, un jour qu'il avait trop bu, il avait déclaré « Le Mexique est aux mains des cartels et des catholiques ». Ne me dites pas que vous tenez l'Église pour responsable de l'épidémie de sida, vous n'allez pas prétendre que les rapports protégés sont la réponse à tout. Il y avait là une allusion à peine voilée, mais peut-être Clark se souciait-il peu de voiler ses références. Juan Diego se souvenait que son ancien élève considérait l'usage du préservatif comme relevant de la propagande. Sans doute paraphrasait-il le pape Benoît XVI, qui avait prétendu que le préservatif ne faisait qu'exacerber le problème du sida. Et voilà que, faute d'avoir répondu à la question de Clark sur le fait que les rapports protégés résolvaient tout, celui-ci cautionnait la théorie de Benoît XVI. Sa position, plutôt, à savoir que la seule façon efficace de combattre une épidémie, c'est la régénération spirituelle. Clark, s'écria Juan Diego, ces mots de régénération spirituelle ne renvoient qu'aux bonnes vieilles valeurs traditionnelles de la famille, avec mariage hétérosexuel et obligation d'abstinence jusque-là. « Eh bien, moi, j'y vois le moyen de freiner une épidémie, » lui opposa ce doctrinaire d'un air rusé. « Entre votre Église qui prescrit des règles impossibles à suivre et la nature humaine, je parie sur la nature humaine. Prenons la chasteté, par exemple. »« On en reparle quand les enfants et les ados seront couchés, peut-être. » Ils étaient seuls sur la coursive en ce soir du 31 décembre. Convaincu que les ados veilleraient plus tard que les adultes, Juan Diego dit simplement « Prenons la pédophilie, Clark. » Je le savais. Je la voyais venir, celle-là, répondit Clark survolté. Dans son discours de Noël à Rome, il n'y avait pas de semaine, le pape Benoît XVI avait déclaré que la pédophilie était considérée comme normale jusque dans les années 70. Clark se doutait que cela ferait grimper Juan Diego au rideau. Bien entendu, son professeur était retombé dans ses travers. Il citait le pape comme si l'idée qu'il n'y avait pas de bien ou de mal en soi était imputable à toute la théologie catholique. Benoît XVI prétend qu'on ne peut parler que du meilleur et du pire. Voilà ce qu'il dit, votre pape. Permettez-moi de vous rappeler que les statistiques montrent qu'il n'y a pas plus de pédophiles dans le clergé que dans la population en général. Benoît XVI a dit « Rien n'est bien ou mal en soi ». Il a bien dit « Rien, Clark. La pédophilie, ce n'est pas rien. Elle est mauvaise en soi, tout de même. » Attendons que les enfants, il n'y a pas d'enfants ici, Clark. Nous sommes seuls sur cette coursive. On entendait